Bah, je dirais que l'institution judiciaire subit de la part du gouvernement, hein, il faut être clair, depuis une dizaine d'années des attaques sur deux plans, hein, essentiellement, à mon sens, à la fois pour remettre en cause le statut de service public de la justice, hein. Alors, il y a d'abord une remise en cause évidente par le manque de moyens, hein, la misère dans laquelle eh bien, les gouvernants décident de laisser la justice, hein, puisque c'est un choix politique. Je rappelle que la France est au 25e rang sur 27 dans l'Union européenne pour le budget alloué à la justice par habitant, hein. Donc, évidemment, ça a des conséquences dans le quotidien du fonctionnement des juridictions.
Alors justement, ouais, quel est ce quotidien un petit peu pour que les gens se fassent un peu une idée de cela, quoi?
Ah ben, ce quotidien, il est, je dirais, à flux tendu en permanence, hein, c'est-à-dire que nous n'avons aucune marge de manœuvre. Si l'un de nos collègues est absent pour une raison ou pour une autre, eh bien, immédiatement, hein, notre quotidien déjà difficile devient pour le coup assez insupportable, hein, avec une multiplication des audiences. Je ne parle là que des magistrats, mais il faudrait parler de tous les personnels de justice, puisque il y a 100 000 agents dans le ministère de la Justice, on l'oublie trop souvent. Donc il n'y a pas que des magistrats qui sont au nombre de 8 500 à peu près, ces magistrats, mais il y a aussi un grand nombre de fonctionnaires de justice, des greffiers, des agents administratifs, des surveillants pénitentiaires, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, des éducateurs, etc., qui souffrent énormément au quotidien. Et je peux vous assurer que si vous passez ne serait-ce qu'une semaine en observateur auprès de tous ces personnels, eh bien vous mesurerez ce que peut être la souffrance au travail. Parce que il y a cette misère en termes de moyens, mais il y a aussi le fait que, évidemment, par notre travail, par notre fonction, nous sommes au quotidien au contact avec des gens des justiciables, hein, qui ont des problèmes sociaux en très grand nombre, qui ont des problèmes parfois psychologiques, et qui, évidemment, sont en droit d'attendre une égalité de traitement, d'abord, hein, ce qui est loin d'être le cas d'un point de vue territorial, et puis qui sont en droit d'attendre un service public de la justice qui est aujourd'hui mis à mal, par exemple, avec cette contre-réforme de la carte judiciaire, hein, la fermeture autoritaire de à peu près 200 tribunaux, alors essentiellement des tribunaux d'instance, hein, qui s'occupent, ces tribunaux, de la justice du quotidien des personnes, c'est-à-dire des affaires de surendettement, des affaires de tutelle, de petits litiges civils, hein, mais qui des affaires de problèmes de voisinage, par exemple, hein, mais qui peuvent empoisonner la vie de beaucoup de gens. Et donc, quand on ferme ces tribunaux d'instance, en très grand nombre, comme l'a décidé le gouvernement il y a un peu plus d'un an, eh bien, immédiatement, vous avez des conséquences en termes sociaux, hein, et en termes d'égalité, encore une fois, territoriale, parce que quand on est déjà surendetté, quand on a des problèmes aussi, par exemple, de licenciement, qui peuvent être abusifs, hein, et que le conseil de prud'homme qui était près de chez vous a fermé, eh bien, vous devez faire parfois maintenant 200 km aller-retour pour présenter votre problème à un juge et avec toutes les difficultés inhérentes au déplacement, au coût financier de ce déplacement, etc., etc. Donc vous avez une politique gouvernementale qui a décidé d'attaquer frontalement tous les services publics et le service public de la justice, malheureusement, n'y fait pas exception. Et puis, n'oublions pas que la RGPP, comme ils disent en haut lieu, c'est-à-dire traduction, la révision générale des politiques publiques, que j'appelle moi le recul général des politiques publiques, eh bien, s'applique à la justice, hein, comme à d'autres administrations. Et ça veut dire très concrètement que un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé quand il part à la retraite. Donc, vous avez sur un terrain déjà passablement déshérité, eh bien, des politiques qu'on peut appeler ultralibérales, hein, qui s'appliquent sans discernement et avec toutes les conséquences que ça implique, encore une fois, pour des millions de nos concitoyens. Alors ça, c'est le premier type, hein, d'attaque frontale. Et le deuxième type d'attaque, c'est par le biais d'une démagogie, hein, de tous les instants, je dirais, le vote, généralement en urgence, d'une avalanche de lois répressives dans beaucoup de domaines, hein, qui nous prépare une société du fichage, du contrôle généralisé de l'ensemble de la population. Ça, c'est pour, je dirais, le contenu même de ces lois. Et puis, vous avez des catégories sociales vulnérables qui sont plus particulièrement ciblées par ces lois. Alors, vous avez les jeunes des quartiers populaires, vous avez la mendicité agressive, par exemple. C'est une loi qui a été votée il y a plusieurs années pour pénaliser ce type de comportement de mendicité agressive. Donc, la prostitution, évidemment, avec la pénalisation du racolage. Vous avez comme ça un certain nombre de populations, les gens du voyage, parmi déjà les populations les plus en difficulté, qui sont particulièrement ciblées par ces lois répressives. Et vous avez une justice qui est sommée, hein, de devenir en quelque sorte une machine à punir, en oubliant ou en mettant de côté ses principes fondateurs. Par exemple, la présomption d'innocence, puisqu'on a entendu à plusieurs reprises un certain nombre de nos gouvernants, et pas des moindres, hein, même le président de la République récemment, parler avant tout procès de présumé coupable, ou même de coupable, tout simplement. Hein. Donc c'est tout ça n'est pas du tout anodin, puisque ça implique, hein, que la justice est sommée d'être de plus en plus sévère avec ceux qui sont préalablement désignés par le gouvernement comme étant, en quelque sorte, hein, des populations indésirables. Voilà. Et donc ça pèse énormément, hein, sur le fonctionnement de la justice pénale. Et vous avez des dispositifs qui tendent à renier de plus en plus la marge de manœuvre du juge, et à faire en sorte que le juge ne puisse plus individualiser les peines, comme on dit, individualiser les sanctions, mais que de plus en plus, on assiste à une mécanisation de la justice, avec notamment, par exemple, les peines planchers, des peines minimum obligatoires. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, d'abord, remplit les prisons, hein, puisqu'on est arrivé le mois dernier au chiffre de 70 000 personnes sous écrou, ce qui n'était jamais arrivé précédemment. Donc on a une augmentation considérable d'à peu près 30% du nombre de détenus depuis 2002. Hein. Et vous avez aussi cette machine comme ça à punir qu'on alimente sans arrêt avec des lois qui sont en fait votées sous le coup de l'émotion le plus souvent, sans évaluer les lois précédentes, hein. Et eh bien, c'est quelque chose que beaucoup de mes collègues n'arrivent plus à supporter, quoi.
On va revenir, hein, sur la question de l'ensemble des lois sécuritaires qui sont proposées par le gouvernement. Mais avant cela, peut-être revenir sur la mobilisation au sein de la magistrature. Vous étiez mardi, il me semble, à Paris pour une manifestation. On dit que les magistrats ne sont pas forcément habitués à se mobiliser, à manifester. Alors comment ça se passe, cette mobilisation au sein de la magistrature? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce mouvement social et puis son ambiance?
D'abord, le 29 mars, il y avait une grande journée, effectivement, de mobilisation, de revendication, hein, de l'ensemble des personnels de justice. Parce que, encore une fois, Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que les magistrats qui soient concernés. Les premiers concernés sont d'abord les citoyens, parce que une société qui marche sur ses deux pieds, bah, c'est une société aussi qui a un mode de régulation qui s'appelle la justice, hein, qui marche. Voilà. Et aujourd'hui, on constate que les choses ne marchent plus, hein, et que, en outre, nous avons un gouvernement qui a décidé de pointer les personnels de justice comme étant les principaux responsables des propres carences de ce gouvernement, ce qui bah, donne lieu évidemment à un sentiment d'injustice d'abord de la part justement de ces personnels de justice qui voient que bah ils rament sans arrêt, hein, pour faire au mieux fonctionner ce service public, et que eh bien en permanence on a un gouvernement qui décide de nous ériger en bouc émissaire, hein, de ses propres manquements, donc et de ses propres choix politiques tout à fait désastreux. Et donc les mises en cause du président de la République à l'égard notamment de des magistrats de l'application des peines de Nantes, hein, au moment de l'affaire dite de Pornic, hein, il y a quelques semaines. C'est mise en cause à l'aveugle, hein, sans qu'il y ait préalablement eu d'ailleurs de rapport déposé par l'inspection des services judiciaires, ce qui a été le cas quelques temps après les propos présidentiels. Et ce rapport a prouvé, a montré, hein, qu'il n'y avait pas de faute professionnelle de la part des magistrats mis en cause très clairement par le président de la République. Et donc le pouvoir s'est vengé en quelque sorte en faisant tomber une tête d'un directeur régional des services pénitentiaires, ce qui est une politique assez irresponsable dans le fond, parce que si on suit la logique, hein, en quelque sorte, eh bien la chaîne de responsabilité, le gouvernement en est à la tête de cette chaîne de responsabilité, puisque le gouvernement en permanence utilise, hein, par la démagogie, tel ou tel fait divers pour faire voter telle ou telle loi, et sans en évaluer du tout les implications de ces lois, et en même temps assèche budgétairement la justice. Donc logiquement, hein, on aurait dû avoir la démission du ministre de la Justice, si on est dans la logique justement de recherche de responsables, hein. Nous disons au syndicat de la magistrature notamment que il faut d'abord, hein, que le gouvernement reste à sa place, ne pèse pas en permanence sur le fonctionnement de la justice, et puis que, effectivement, cette justice ait les moyens de fonctionner en tant que service public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Dernière question, Hélène Franco, c'est sur l'arsenal sécuritaire mis en place et qui est justifié par un besoin toujours grandissant des Français, un besoin de sécurité. Alors, comment vous expliquez ce besoin de sécurité?
Il n'y a pas de grandes analyses à faire là-dessus. Tout le monde a besoin de sécurité, moi comme vous, vos enfants, etc., ont besoin de sécurité. En termes de besoins, je veux dire, il n'y a rien à dire. Maintenant, là où il y a matière à discussion, hein, c'est que la manière de faire la loi, d'abord, est tout à fait contestable. C'est-à-dire que c'est à coup de faits divers, hein, que on invente à chaque fois une usine à gaz, des dispositifs de plus en plus répressifs, hein, et sans aucune évaluation des dispositifs précédents qui ont pu montrer leurs preuves, hein. Par exemple, on sait très bien que statistiquement, les mesures de libération conditionnelle, c'est-à-dire les personnes qui sortent avant la fin de leur peine de prison et qui sont suivies, qui ont des obligations, eh bien que ces mesures font baisser la récidive par deux. Hein, divise la récidive, le risque de récidive par deux, ce qui est pas mal. Bon, a-t-on du côté du gouvernement pris la mesure des choses et dit bon bah puisque les libérations conditionnelles ça marche, on va mettre le paquet là-dessus? Que nenni. Au contraire, on a mis le paquet sur la construction, toujours plus nombreuse, de places de prison, hein, avec d'ailleurs toujours des conditions lamentables d'emprisonnement et de détention. Et puis, on a laissé péricliter les services éducatifs, hein, qui s'occupent du suivi des libérations conditionnelles. Vous voyez que c'est une politique qui est à l'emporte-pièce, hein, qui est complètement dans la démagogie de l'instant, et que ça ne répond en aucune façon à ce besoin de sécurité. Et puisque les mots ont leur importance, eh bien, rappelons que dans nos déclarations des droits de l'homme et du citoyen, qui quand même, ça fait partie de notre socle de droit, hein, du socle de nos textes juridiques, eh bien, dans ces déclarations successives des droits de l'homme en France, on n'a jamais parlé de sécurité. Pourquoi ? Parce que le concept de sécurité est inclus dans le concept de sûreté. Hein. Et la sûreté, c'est beaucoup plus protecteur pour les citoyens. Parce que la notion de sûreté, c'est l'idée que ce sont les pouvoirs publics qui ont l'obligation, hein, d'assurer non seulement la sécurité dans la rue, hein, aux personnes, avec une politique en matière de police, etc. Hein. On pourrait aussi dire beaucoup de choses sur la politique menée à l'égard des services de police depuis un certain nombre d'années. Et le concept de sûreté, c'est donc à la fois cette sécurité, on dit, du quotidien, hein, la sécurité dans la rue, mais c'est aussi l'idée que, par exemple, lorsque vous êtes inquiété, hein, mise en cause dans une procédure, par exemple, de conduite en état alcoolique ou de choses qui ne sont pas forcément exceptionnelles. Lorsque vous êtes, par exemple, placé en garde à vue pour ce type d'affaires de conduite en état alcoolique, eh bien, la sûreté, c'est l'idée que vous devez être bien traité en garde à vue, par exemple. Que vous avez... la certitude, hein, de ressortir de garde à vue, par exemple, sans avoir été violenté, maltraité, etc. Voilà. Donc la sûreté, c'est quelque chose qui est très peu utilisé par le gouvernement actuel, et pour cause, parce que c'est mis à la charge de l'État. Hein. Et c'est ça, c'est à cette idée qu'il faut revenir. Hein, c'est que, au contraire, le gouvernement voudrait faire en sorte que chaque citoyen soit considéré, soit traité comme un délinquant ou un criminel en puissance. Hein. Mais c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. C'est l'idée que, au contraire, c'est à l'État, hein, de protéger l'ensemble des citoyens, à la fois dans ses rapports avec les pouvoirs publics, et puis dans les rapports avec les autres citoyens.